boîte, Cédric Adrovert.
Un bureau plutôt simple qui sent la technique. C'est là que j'ai été accueilli à l'ajout. Des plans, des machines, même chez le directeur. Oui, notre invité est un technicien de formation et dans les veines. Il le dit lui-même, je ne suis pas un plotteur de nuages. Ses produits, il les connaît. Le premier d'entre eux, vous le connaissez aussi. Vous le tournez parfois pour faire une fleur que vous mangerez. Une fleur de tête de moine, bien entendu. Et si vous n'avez pas deviné le produit à ce stade-là, un indice, il est dans le nom de l'entreprise de notre invité, Métaphile. La Girolle. Durant les 20 prochaines minutes, on va parler de ce produit historique, mais des nombreux autres qui sortent de cette usine également. On va aussi parler de la crise économique qui touche tous les sous-traitants, dont Métaphile La Girolle. Et on en parlera franchement, parce que comme notre invité n'a pas peur d'être parfois dans l'émotion, et comme il le dit, il y a tellement de choses à dire, ça passera donc trop vite. On va pas perdre de temps à ploter les nuages. Bonsoir Pierre-Romain.
Oui, bonsoir.
Pierre Rome, donc directeur de Métaphile La Girolle, notre invité. Avant de parler de l'usine, des produits, un mot peut-être sur vous. Je l'ai dit dans l'introduction, vous avez un parcours technique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cette direction ?
Ah ben écoutez, je pense que quelque part c'est la fièvre de la mécanique. Finalement, depuis l'âge de 12 ans, je trafique, j'étais avec mes vélos moteurs, etc. Et puis finalement, c'est ça. Ouais. C'est ça.
Qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours à arriver aux responsabilités ?
Oh ben écoutez, c'était le défi, c'était l'envie de créer quelque chose, d'avoir une équipe, de partir dans des développements, dans quelque chose, apporter quelque chose dans le domaine de la mécanique. C'est ça qui, quelque part, me fascine toujours.
On sent la passion quand vous parlez. Ça aide d'avoir un bagage technique pour diriger une entreprise comme la vôtre, c'est sûr, on sait de quoi on parle. Ce serait possible sans ?
Non, je crois pas. Surtout pas dans le domaine de la sous-traitance. Je pense que là, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble. Il faut avoir touché, il faut comprendre. J'entends que quelque part, un nos collaborateurs a un problème. Il faut qu'il sache que quand il m'explique quelque chose, que je le comprenne. Quoi, finalement, autrement, ça ne sert à rien. J'ai meilleur temps de rester dans mon bureau, finalement.
Parler le même langage.
Voilà.
Et le management, ça s'apprend ?
Ouais, ça s'apprend un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas forcément la tasse de thé du technicien quelque part. Mais finalement, comme j'ai passé par plus ou moins le même parcours, j'ai aussi été sur des machines, j'ai aussi fait des développements, j'entends de la vente, etc. Donc c'est un peu plus facile probablement.
Alors ça fait 20 ans que vous dirigez, que vous êtes aux responsabilités dans cette entreprise. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, énormément de choses qui ont changé en 20 ans. Si vous deviez en citer une ou deux.
Ah, je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est les relations humaines. Je pense que quelque part avant, on avait toujours affaire à des patrons, à des gens qui venaient avec des dessins, qui venaient chercher des idées, des choses. Aujourd'hui, on a affaire de plus en plus à des acheteurs, à des commerciaux. On a de moins en moins vraiment des gens techniques en face. Et puis de l'autre côté, ben, c'est cette évolution d'électronique où finalement, ben voilà, quand je suis arrivé à l'ajout, il n'y avait pas d'ordinateur. Aujourd'hui, ben, vous allez dans votre voiture et puis vous pouvez quelque part aller ploter sur Internet sans avoir trop de complications. Donc c'est tout ça qui a changé. Et puis c'est cette vitesse, c'est cette rapidité dans ce qu'on fait. Ça va toujours plus vite. Il faut toujours être à l'affût. Il faut toujours être prêt de trouver autre chose dans des temps toujours plus courts. Et je pense que c'est ça qui a énormément changé.
Il y a beaucoup d'outils pour nous faciliter la vie. Pourtant, vous diriez que vous êtes plus sous pression aujourd'hui qu'il y a 20 ans ?
Oui,
ah oui,
très nettement, parce que quelque part, j'entends, c'est comme si vous prenez un attel aujourd'hui, vous chattez, vous allez sur WhatsApp, etc. Si vous n'avez pas dans les 2 secondes ou les 3 secondes la réponse de l'interlocuteur, vous énervez déjà. Et je pense que c'est quelque part quelque chose qui se vit tous les jours, où finalement, même les enfants, j'ai des enfants, ils m'envoient un message. Si malheureusement, je ne le vois pas tout de suite, eh bien ça y est, ils m'harcèlent, ils me demandent si je suis malade, si j'ai un accident, etc. Donc ça fait partie de cette vie finalement, de ce qui se passe tous les jours.
Le relationnel, vous l'évoquez, ça m'intéresse, parce que c'est vrai qu'on est dans une région où les entrepreneurs d'un certain âge fonctionnent vraiment au relationnel. On se rencontre autour d'une table, on discute. Oui. Et là, vous me parlez d'une évolution où on parle de plus en plus de prix, d'efficacité. Il y a une déshumanisation dans les relations de travail, vous sentez ?
Énorme.
Oui.
Énorme. Aujourd'hui, c'est aussi peut-être l'informatique qui a apporté ça, où finalement, aujourd'hui, des acheteurs prennent 50 sous-traitants, susceptibles de faire la pièce qui les intéresse. Un coup de clic, boum, c'est parti, quoi, finalement. On peut envoyer la même offre à l'autre bout du monde, et puis quelque part, quelques minutes après, ou quelques heures, ou quelques jours, c'est encore pas grave, on a des réponses.
Votre entreprise Métaphile La Girolle est forcément très connue parce qu'elle fabrique La Girolle, c'est là que l'invention s'est faite. D'ailleurs, en quelques mots, vous pouvez nous rappeler l'histoire de La Girolle ?
Oui, ben, La Girolle, écoutez, elle a été créée en 1981 par Nicolas Crevoisier, qui était l'inventeur. Je pense que ce qui a vraiment, on veut dire, qui a donné le départ à La Girolle, c'est le fait d'avoir transpercé le fromage par l'axe central. Je crois que c'était un sacrilège à l'époque.
C'est un scandale de faire ça.
Oui, c'était à l'époque, c'était quelque chose que personne n'a pas a compris. Mais finalement, à un moment donné où on l'a fait, on a mis ce couteau là au milieu, on a vu ces belles petites fleurs, c'était onctueux à manger. Ça a vite été oublié.
Jean-Michel Probst a visité l'usine. Il a croisé Jean Daniel en train de produire justement La Girolle. On écoute.
Sortie de boîte.
Voilà, là pour l'instant, je travaille un peu au Girolle par un manque un peu à la production. Et puis c'est un changement qui est sympathique.
Vous êtes ici depuis combien de temps ?
Je travaille chez Métaphile depuis plus de 30 ans.
Depuis plus de 30 ans, donc vous avez vu arriver la construction de la Girolle ?
Oui, tout à fait. Dans les années 80, ça a démarré avec le brevet dès 1981. Donc on a vu un peu l'évolution. La Girolle continue toujours, hein, pour ainsi dire, un peu moins bien, mais on est toujours là, on est toujours vivant. C'est bien, moi je pense que c'est bien que ce produit puisse continuer. C'est un peu une marque aussi de fabrique de l'entreprise. C'est un produit noble qu'on aime bien.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de Tavannes avec Pierre Rome, directeur de Métaphile La Girolle. On l'a entendu, hein, un produit noble, une fierté, quelque chose d'attaché à la région. C'est tout un symbole pour Métaphile, ce produit.
Oui, ben écoutez, je pense qu'il ne faut pas se cacher. J'entends que c'est un produit qui a quand même quelque part aidé énormément au développement de la société. À un moment donné, j'entends ça a quand même généré, on veut dire, de l'argent. Ça a généré la possibilité d'investir cet argent dans le département de la sous-traitance pour s'équiper de machines super performantes, adaptées à des nouvelles demandes, à des nouveaux besoins de l'industrie. Et puis d'autre part, ça a aussi permis d'investir dans la fabrication de la Girolle en elle-même. Parce que ce qu'il faut savoir au départ, c'est qu'on pensait peut-être en produire 200, 300, peut-être 1000 à tout casser. Et puis finalement, ça a explosé. Et il a fallu...
Comment ? Au plus haut, on en produisait combien ?
Écoutez, je pense dans les grandes années. On veut dire dans les grandes années, c'était dans les années 2008, 2007, 97, 98, on fabriquait grosso modo 120 000 girolles.
Ah oui, ça en fait des fleurs de tête de moine.
Tout à fait.
C'est intéressant ce produit parce que c'est un peu un cas d'école, un produit unique, sous brevet pendant 20 ans. En 2001, le brevet s'arrête. Comment on se prépare à l'après-brevet, au moment où tous les concurrents peuvent arriver ?
Alors écoutez, on n'a pas attendu 2001 pour se préparer. Hein. Je pense que de fil en aiguille, d'année en année, on a toujours essayé d'investir pour améliorer la production de la Girolle, pour améliorer la production du couteau. On a aussi soutenu nos sous-traitants du bois pour leur permettre d'investir dans des machines pour créer des planches, on veut dire, à des prix de revient aussi plus compétitifs. Et puis après, quelque part, on a quand même aussi investi dans la sous-traitance. Dans la sous-traitance, c'était aussi pour être prêt après, on veut dire, la Girolle, pour continuer avec une entreprise équipée de moyens de production ultra modernes. Tout ça, ça a aussi permis, pendant ce temps, de donner la possibilité à notre personnel de suivre cette évolution, de se former,
se diversifier,
d'acquérir un grand savoir dans ce domaine-là. Oui.
La Girolle, c'est un produit traditionnel en bois. Les consommateurs n'attendent pas vraiment autre chose. Est-ce qu'on peut innover sur un produit comme celui-là ?
Bon, alors écoutez, pendant, on veut dire, depuis 95, 96, on a quand même essayé de créer d'autres produits. Vous pouvez aller voir sur Internet.
Oui, alors j'ai vu justement, il y a des girolles électriques, plastiques.
Non, électrique, il avait eu à l'époque, on avait essayé de faire un projet en partenariat avec Zilis.
Mais ça ne marche pas.
Alors écoutez, c'est pas que ça marche pas, mais le fait de d'appuyer sur le couteau en tournant sur le fromage, la saveur, l'onctuosité du fromage est différente que si vous y mettez une machine dessus.
Bah oui,
voilà, ça c'est je pense charme, quelque part qui était totalement différent. Mais on a essayé avec des machines, on veut dire en plastique, toujours dans avec des produits nobles comme le plastique alimentaire, des choses comme ça. On a essayé de faire des girolles design, un peu dans genre Tupperware, pour essayer peut-être de donner la possibilité aux jeunes qui aiment bien un petit peu toutes ces babioles dans leur cuisine de pouvoir l'aménager. Et finalement, on se rend compte avec le recul que le produit, vraiment le produit qui marche le mieux, c'est le produit phare en bois.
Oui, ce qui n'a pas changé.
Oui, parce que vous savez, vous mettez au milieu d'une table, tout le monde peut tourner, c'est convivial, c'est chaleureux, même les enfants s'amusent à un moment donné. Avec ça, ben, c'est clair que la tête de moine, elle est vite mangée, tout le monde prend du poids, mais on est heureux, quoi.
Avec la concurrence, notamment la concurrence étrangère, mais aussi la concurrence locale, c'est un produit qui est rentable aujourd'hui pour Métaphil, la girolle?
Alors écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment donné où on est tombé dans le domaine public, on le savait déjà, on a déjà été attaqué par certaines copies un petit peu avant, donc on savait qu'on allait devoir se battre au niveau des prix. On a aujourd'hui diminué de 30 à 40% le prix de vente grossiste, nous a amené quand même aussi à voir comment on pouvait le produire de façon, on veut dire, performante. Il est vrai que on n'a pas voulu mettre en péril, on veut dire, la fiabilité, la qualité du produit. Donc on a continué à créer un produit qui est certifié. Donc il faut savoir que tous les fournitures qui composent la girolle sont certifiées, même le bois est certifié. Toutes les années on se fait contrôler, on continue, parce que pour nous, ce qui est important, c'est que notre clientèle sache qu'ils achètent un produit de qualité, un produit, on veut dire, garantie à vie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez être aux États-Unis, vous pouvez être au Congo, où vous voulez. Si vous avez une girolle qui casse, vous nous l'envoyez, on vous la répare, on nous renvoie les pièces.
Mais vous n'avez pas vraiment répondu, est-ce que c'est rentable pour Métaphil aujourd'hui?
Non, alors aujourd'hui, je dirais que voilà, c'est égal. On est content, on arrive à garder notre place de travail.
Mais on ne fait pas de bénéfice.
Non, disons, ce n'est plus les grandes années.
C'est en tout cas un produit qui fait de l'ombre. On ignore souvent les autres produits qui sortent de votre usine. Ce n'est pas un peu agaçant, ça, parfois?
Non, mais je pense que quelque part, c'est un produit qui a quand même, d'un certain côté, nous a aidé à être ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on doit avoir le respect de ce produit. Après, c'est vrai que souvent, c'est vous qui faites des girolles. Donc, quelque part, on a un moyen de production d'autre côté, en sous-traitance, avec lequel on fait vraiment des produits high-tech, on travaille tous les jours dans le micron, qui est de loin pas évident. Et puis, quand on nous dit, c'est vous qui faites les girolles, des fois, on se dit, ils croient juste bon à faire du centième ou du dixième, et puis c'est vraiment pas le cas. Mais ça fait rien, finalement. On nous connaît, on parle de nous.
Dans la machine-outil, l'horlogerie, la mécanique de précision, de grande précision, comment vous décririez le savoir-faire de Métaphil aujourd'hui?
Je crois que Métaphil aujourd'hui est composé de moyens de production ultra-modernes. Je crois qu'on a quand même encore cette année, on a rentré encore une machine, on veut dire, de haute précision. Et on a, on veut dire, des collaborateurs qui sont là, qui maîtrisent. Et je pense que de loin à la ronde, on a fait notre place.
Il y a une spécificité propre à Métaphil. Hein. Vous produisez une décolleteuse. Vous êtes d'ailleurs les seuls à en faire avec Tournos. Pourquoi être entré sur ce marché?
Alors écoutez, bon, le premier, c'est ceci. Je vous fous que je l'aime un petit peu, que je fasse une histoire là-dessus. J'entends quelque part, dans les années, on veut dire 80, on a été approché par un grand industriel de la place pour développer une décolleteuse. Cette décolleteuse était une décolleteuse à cam pour vraiment la grande production dans tout ce qui était connectique. On a fait grosso modo 300-350 machines. Il y en a en Suisse, il y en a aux États-Unis, etc. Après coup, il est venu une demande d'un autre dirigeant pour créer une décolleteuse principalement axée dans les pièces de connectique de haute précision. Et là, finalement, s'associer avec un bureau de développement, avec un bureau qui a créé toute la commande numérique, et puis nous-mêmes qui avons fait les pièces, et là on a fait une décolleteuse qui quelque part était ultra, on veut dire ultra performance et moderne pour l'époque. C'était en 1989. On en a produit environ une centaine avec un contrat que quelque part on n'osait pas produire pour d'autres. Et puis finalement, ben voilà, on a attendu. Et quand je suis arrivé à l'Ajout en 98, j'ai bien aimé remettre ce produit sur le métier. Et puis finalement, l'ancien propriétaire avait trouvé qu'il était trop âgé pour partir dans ce défi. Et pour nous, ce qui était important après, c'est de continuer à investir dans un moyen de production ultra moderne pour un jour prévoir, on veut dire, une après-Girol, créer un propre produit qui est composé de notre marque, de notre savoir, de notre précision qui est reconnue aujourd'hui. Et c'est de là, en 2005, qu'on a pris la décision avec le nouveau conseil d'administration de partir dans la création d'un propre produit. Et on a mandaté un bureau de développement qui aujourd'hui a été racheté par Metafil et qui nous a aidé à mener ce projet de décolleteuse.
Et aujourd'hui, donc, il existe, il est là. On a évoqué à quelques reprises, on va revenir en 2016 maintenant, la crise économique qui touche les sous-traitants. Vous, par votre expérience, 20 ans à la tête d'entreprise, vous avez connu des hauts et des bas dans l'économie. Cette crise, vous la situez où ?
Ah, je dirais que c'est la pire crise que j'ai jamais vécue.
Ah oui, la pire ?
Oui, la pire. J'entends tout. Alors écoutez, le problème, c'est que les autres crises étaient des crises, on veut dire, qui touchaient principalement toujours des secteurs ou l'autre. Ça nous permettait toujours de nous diriger dans le secteur qui est porteur. Parce que nous, on travaille dans tous les axes. On peut toucher aussi bien dans la machine-outil, dans l'horlogerie, etc. Donc ça nous permettait chaque fois, dans les crises qu'on a vécues, de pouvoir se diriger et dire, ah ben ce secteur il est un petit peu paralysé, on va de celui-là.
Il n'y a plus de secteur porteur aujourd'hui ?
Aujourd'hui non, je pense qu'on est tous, bien en crise et c'est ça qui me fait peur. L'horlogerie aujourd'hui avoue que quelque part elle a des gros soucis, la connectique elle a des soucis, le médical aussi, j'entends quelque part il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés. Le gros problème qu'on vit aujourd'hui, ben c'est l'informatique finalement, c'est que les grands donneurs d'ordre aujourd'hui peuvent aller biaiser, on veut dire schneuker, comme on dit chez nous un petit peu, ça veut dire aller regarder ce qui se passe dans les autres pays et s'entourer de sous-traitants étrangers. Et on oublie un peu toutes ces petites PME qu'il y a ici. Oui.
Aujourd'hui, une PME comme Metafil, la Girol, elle fait du bénéfice, elle est rentable ?
Non. Écoutez, j'entends, on a déjà subi un grand choc. C'est quand l'euro est tombé de 1,60 à 1,20. Là, on a tous dû revoir nos prix de 25%. Donc, on a tous pris une claque. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de voir comment on pouvait se restructurer. Qu'est-ce qu'on pouvait amener comme moyen pour rester performant, pour rester, on veut dire, reconnu, pour avoir un produit de revient, un prix de revient très, très compétitif. Alors, il a fallu quoi ? Il a fallu investir, il a fallu peut-être s'endetter, etc. Donc, ça nous a quelque part un peu fragilisés. Finalement, en fin 2014, on sentait qu'une nouvelle crise allait arriver. On le sentait très nettement, on avait déjà des symptômes. Et puis finalement, le coup de grâce, ça a été quand même au mois de janvier 2015, avec l'abandon du taux plancher. Et là, on nous demandait encore une fois 15 à 16% de diminution dans nos prix. Et à ce rythme-là, on ne peut plus.
Quelle solution vous imaginez aujourd'hui ? Il y en a ?
Oui, j'entends, je sais pas. J'entends, ce qui me fait peur, moi, c'est qu'on devra sacrifier une bonne partie de toutes ces PME, qui sont aujourd'hui fragilisées, qui n'ont plus les moyens, qui sont endettées, et quelque part, qui ont œuvré, qui ont aidé pendant des dizaines d'années à travailler pour atteindre le succès que beaucoup de grands groupes, de beaucoup de grandes entreprises ont se vante aujourd'hui, et c'est grâce à toutes ces petites fourmis là qui étaient là, qui ont travaillé. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on les oublie.
Il y a un savoir-faire qui pourrait disparaître.
C'est le grand savoir-faire, il est de toute la générosité, les développements de toutes ces petites mains. Ben, j'entends, voilà, on a tendance aujourd'hui à se dire, bon ben voilà, on peut rien faire. Et c'est ça qui me fait peur.
Il y a, quand on dirige une entreprise et qu'on traverse des crises comme celle-ci, ben parfois on doit passer par des licenciements, on doit se séparer de personnes. Dans une PME, les gens sont proches. Ça, en tant que directeur, comment vous le vivez ?
Oh, je vis très mal. Écoutez, ça fait 21 ans que je suis à l'Ajout. J'ai attendu 16, 17 ans pour commencer à me dire que c'était, j'avais plus d'autre choix. J'ai dû licencier. C'est terrible. J'ai des enfants, j'ai mes employés. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Mes collaborateurs, j'entends, ils sont là aussi dans les temps où tout va bien, mais on peut aussi compter sur eux quand tout va mal. Et quelque part, de devoir s'en séparer, c'est terrible. C'est terrible. Et puis, d'autre côté, j'entends, c'est aussi un savoir-faire qu'on licencie. C'est aussi des gens qui ont un grand potentiel. Et finalement, on se dit après, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on n'a pas le choix, parce qu'à un moment donné, le chômage, il prend fin. Et puis, on doit trouver des solutions pour préserver le reste de la troupe, hein, finalement.
On a parlé d'horlogerie tout à l'heure. Ça fait partie aussi du savoir-faire de la région. Et chaque semaine, Marie-Lise Salard-Essayard vient nous parler d'horlogerie. Ce soir, elle vous propose une devinette.
Pile à l'heure.
Quel est le point commun entre Jean-Claude Biver, Nicolas Hayek, Elmar Mock et Vianney Alter? Qui a dit l'horlogerie? Bien sûr qu'ils évoluent tous dans ce domaine, sinon je n'en parlerai pas. Je vous rappelle que cette chronique s'appelle « Pile à l'heure » et qu'elle traite justement d'horlogerie. Alors, quelqu'un a une réponse plus précise quant au point commun qui existe entre ces quatre personnalités du monde horloger? Non? Eh bien, ils ont tous reçu le prix Gaïa. Alors c'est vrai, quand on ne connaît pas le nom Gaïa, ça peut faire penser à une marque de savon au pH neutre qui respecte toutes les peaux, même les plus sensibles. On imagine d'ailleurs à quoi pourrait ressembler la publicité avec une jolie demoiselle incarnant une déesse grecque au milieu d'un grand bassin et qui prend un plaisir évident à se savonner.
La beauté est éternelle.
Mais plus sérieusement, le prix Gaïa, remis depuis plus de 20 ans, récompense des personnes méritantes dans le vaste domaine de la mesure du temps. Les lauréats sont des artisans, des industriels ou des chercheurs. Cette année, il y a 4 lauréats pour les 3 prix qui ont été remis mardi à la Chaux-de-Fonds. Dans la catégorie Esprit d'entreprise, les vainqueurs se nomment Giovanni Busca et Pascal Rocha pour, je cite, leur rôle fondamental dans le repositionnement de l'Observatoire de Neuchâtel et dans l'application industrielle des recherches portant sur l'horlogerie atomique. Pascal Rocha, c'est le directeur général de SpectraTime. Cette entreprise a été la seule capable de fournir à l'Agence spatiale européenne les 2 types d'horloges dont elle avait besoin pour équiper les 30 satellites du système de géolocalisation Galileo. La société n'a pas de concurrent en Europe, mais elle en a ailleurs. Le mot de la fin à Pascal Rocha.
Alors la Chine a investi énormément d'efforts, d'argent, des centaines de chercheurs en Chine, dans plusieurs laboratoires, travaillent depuis une quinzaine d'années pour développer l'horloge chinoise de navigation, par exemple. Donc là, ils arrivent à force d'efforts et de 10 fois plus de monde, 10 fois plus de moyens que nous. Ils arrivent aussi à faire des choses qui sont aujourd'hui assez intéressantes. Néanmoins, ils nous ont quand même acheté une certaine quantité. Sur les États-Unis, il y a aussi eu énormément d'efforts du département de défense américain pour développer ce genre d'horloge depuis aussi 30 ans. Ça se chiffre en centaines de millions de dollars. Nous n'avons pas eu, bien évidemment, ces moyens-là, mais on s'est quand même passablement bien débrouillé avec des contrats de l'Agence spatiale européenne qui étaient de quelques dizaines au total.
Pile à l'heure de Marie-Lise Saillard que vous retrouvez sur notre site internet. Pierre Rome, le directeur de Métaphile, était notre invité ce soir. Pierre Rome, on a parlé de girolle, de décolletage, on a aussi parlé de crise économique et on vous remercie d'en avoir parlé aussi franchement et ouvertement. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui, peut-être des politiques qui nous écoutent pour soutenir les PME?
Mais je crois que quelque part on entend d'eux qui nous écoutent, qui trouvent des solutions, qui nous aident et j'entends qu'ils nous soutiennent jusqu'au bout. Je pense que c'est aussi leur rôle, c'est aussi pour ça qu'on les a élus et je pense que c'est maintenant qu'ils ont une carte à jouer et j'espère qu'ils n'attendent pas trop longtemps pour nous montrer qu'ils peuvent nous aider.
Et pour terminer sur une note plus positive, allez, imaginons la crise est passée, l'économie reprend. C'est quoi le projet de rêve que vous développeriez avec Métaphile?
Ah, je ne sais pas exactement, mais je pense que j'aurai vite des idées.
On vous en souhaite plein. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et Sortie de boîte s'arrête ici, mais continue sur notre site internet, notamment des photos de l'usine que vous pouvez retrouver et cette émission à réécouter dans son intégralité. Bonne soirée, Pierre-Rome.
Bonne soirée, merci.
Et bonne soirée à tous.
Sortie de boîte.